s'opposer à l'occupation romaine avec tellement de courage, tellement d'audace, qu'ils furent recherchés, condamnés à mort. Ils entrèrent alors dans le maquis. Pendant 12 ans, dit la Gomara, ils vécurent cachés dans une caverne. Lorsqu'ils en émergèrent, ils ne purent réprimer leur stupéfaction. Au dehors, le monde n'avait pas changé. C'était la vie comme avant. Le père et son fils n'en purent pas leurs yeux. Était-ce possible? Avaient-ils été témoins d'épreuves aussi sombres pour rien? Dans leur colère, dit le Talmud, en posant leur regard sur une chose, ils la réduisaient en cendres. Alors une bat-colle, une voix céleste se fit entendre. Avez-vous quitté votre refuge pour détruire ma création? Regagnez votre abri. Ils y retournèrent, dit le Talmud, pour une année supplémentaire. Lorsqu'ils réapparurent, le fils, Rabbi Eliezer, était toujours en colère, mais plus son père. Et le Talmud conclut ce que le regard du fils blessait, le regard du père le guérissait. Ce récit, je crois, illustre d'une certaine façon les défis extraordinaires que votre cher époux, père et grand-père, beau-frère, Adolphe Kolob, de son nom hébreu, Rabbi Shmaïr ben Avrom, a dû affronter au lendemain de la Shoah, alors qu'il avait fui Berlin dès 1933. Certes, il n'est pas possible qu'il n'ait pas découvert ce monde au lendemain de la guerre sans éprouver de la colère, de la violence et peut-être même d'en avoir voulu au ciel. Mais pareil, Rabbi Shimon ben Yochai, il a essayé avec vous, chère madame, de bâtir, de rebâtir, de construire un foyer avec vous sur les cendres de la sienne qui a vu disparaître sa mère déportée à Auschwitz et son père assassiné en tentant d'y échapper. Et tel Yitzhak, dont nous avons lu le récit Shabbat dernier, en se mariant avec vous à Épinal, il y trouva de la consolation. Pareil à Yitzhak, oui, il n'a songé après la mort de sa mère Sarah, comme lui, qu'à votre bien-être. Il a choisi avec vous de donner la vie, à Laurence et à Nadine, et à travers elle, à travers Élie et Laurence et ses petits-enfants, Dov et Mélisa, Lève et Sarah, Michael et Sophie, Rosalie et Elsa, et ses arrière-petits-enfants, Léla, Aura, Yehuda et Julie, il a tenu à témoigner. Et tel Yitzhak, qui veut dire en hébreu, celui qui rira, il l'a fait, comme vous me l'avez témoigné, en riant de ce monde. Un monde qui, s'il avait dû être pris au sérieux par le peuple juif, à travers tout ce qu'il a enduré, aurait dû être plutôt l'objet de son désespoir. De là, sa joie de vivre, son sens de l'humour pour ce cadet d'une fratrie que les questions, parfois trop passionnées, mais souvent naïves, des petits collégiens, à ce grand résistant, amusés presque par leur naïveté. Car comment garderait-il son sérieux alors que son histoire, son destin fut presque de l'ordre de l'inimaginable? Et telle histoire d'Yitzhak, menacé lui aussi de mort, stérile comme son épouse l'était, et pourtant promis à être l'ancêtre d'une grande famille, du peuple juif, avec même la promesse d'une immense postérité. Lui qui, à peine âgé de 17 ans, est recherché par les nazis à Berlin pour ses activités antifascistes, car bien qu'élevé dans une famille très traditionnaliste dans le quartier juif de Berlin, Adolphe Kolob comprend que une haine annihile, mille lits, si je ne suis pas pour moi, ce le sera, et il choisit de se défendre plutôt que de subir. Il arrive donc à Paris, sans pouvoir parler un mot de français, mais déjà, comme tant d'autres, de nombreux légionnaires, considéré par la France de 36 comme indésirable. Il s'engage alors dans les brigades internationales et part combattre avec les républicains espagnols dans un groupe dont il sera l'un des rares rescapés. À son retour, arrêté par les gendarmes français, il est placé en résidence surveillée au Guéret, dans la Creuse. Et c'est sur cette terre qu'il vend en vérité vérité se révéler comme un grand résistant. Et c'est en héros qu'il sera élevé au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur à titre militaire, distinction qu'il tiendra à recevoir dans la Creuse. Distinction à laquelle s'ajoutait la croix de guerre avec femmes et la croix de combattant volontaire. Récemment encore, parmi 600 des anciens combattants s'étant battus avec les brigades, dans les brigades internationales, il se voit accorder la nationalité espagnole et la médaille symbolique, mais tellement fidèle à sa personne, de volontaire de la liberté. Une liberté, faut-il le rappeler, durement défendue, cruellement gagnée, puisqu'il échappe aux gendarmes français venus l'arrêter et devra survivre pendant plusieurs mois dans les bois, dans des conditions extrêmement précaires. Il devra sa survie grâce à l'aide de justes parmi les nations qui le cacheront malgré les risques encourus. Mais il ne s'en sort que pour rejoindre encore une fois le combat. Le maquis, dont il fut parmi les premiers des combattants dans la Creuse, commandant d'une compagnie des forces françaises de l'intérieur, aux côtés de l'historien Marc Bloch qui sera fusillé, il sabote des voies ferrées, attaque des convois et récupère des armes jusqu'en 1944 où il libère Guéret et la Creuse pour s'engager aussitôt dans l'armée régulière où il participe à la reddition de la poche de La Rochelle. C'est le général de Gaulle lui-même qui accordera la nationalité française alors qu'il est envoyé en Algérie où il sert la France comme lieutenant de l'armée française. Son histoire, nous l'avons dit, sera pour lui l'occasion de témoigner pour ceux qui moururent à ses côtés, comme pour ceux qui moururent sans trouver de lieu de sépulture. Il le fera à travers ses nombreuses visites au Struthof, dans les collèges, dans les lycées, mais encore une fois à travers vos vies, retrouvant à sa manière la vie intérieure qu'il avait encore connue auprès de ses parents et qu'il tentait même de restituer jusqu'à vous rappeler les rites qu'il avait encore partagé avec les siens avant que la guerre lui arrache tout ce qui allait être livré à ses yeux, au feu, à la désolation, à l'exil, au ghetto et au camp. Un siècle où il aura vu le temple en flammes, mais aussi des prophètes sans vision. Et pourtant, cette Yiddishkeit qu'il a retrouvée en vous, il l'a respectée, même s'il s'en croyait coupé. Il trouva dans l'engagement de ses enfants et petits-enfants non seulement la fierté d'une fidélité à une histoire qui s'était interrompue, mais aussi, j'ai la faiblesse de le penser, une sorte de réconciliation avec le digne fils d'Israël qui n'a jamais cessé d'être. Et avec ce passé, ce siècle presque entièrement traversé, et ce sentiment d'avoir vécu un destin vertigineux et héroïque, même s'il s'en défendait, et qui pour nous s'énonce durant ces années noires comme un kiddush à Haïm, tant qu'il était jaloux de la vie de son peuple, en sorte qu'il mérite d'être doublement salué et honoré aujourd'hui, autant par les anciens combattants et résistants, comme le sera dans quelques instants, que par la communauté qui s'incline également devant ce grand combattant de la liberté. Que vous, sa chère épouse, Nicole Léa et ses enfants qui l'ont entouré, avec un amour et une affection sans bornes, un soutien qui lui a sans doute permis de vivre aussi longtemps en bonne santé, aux côtés de vous, prouviez en ces quelques mots la plus grande consolation. J'invite maintenant le président des anciens résistants à prendre la parole.
Chers familles et chers amis, c'est au moment de partir à la commémoration du 11 novembre, hier matin, la nouvelle du décès de mon camarade et ami Adolphe Lepardieu. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce fut pour moi un moment de grande tristesse et de considérable émotion. Adolphe a été le doyen des membres de notre association des anciens combattants de la Résistance. Malgré son grand âge, il a été durant toutes ces années au premier rang des militants actifs de notre association, en compagnie de son épouse Nicole, à qui je voudrais présenter mes condoléances, des condoléances Dès son âge de 14 ans, il a rejoint les rangs des combattants de la liberté. Et depuis lors, il n'a jamais cessé de lutter contre le fascisme et pour le progrès de l'humanité. Au prix d'épreuves souvent très pénibles et des pires prédations. À l'âge de 18 ans, alors qu'il est recherché par la Gestapo, il réussit à quitter l'Allemagne. Arrivé en France, sans argent, ne sachant pas un mot de français, il connaît une vie très dure. Il couche sous les ponts et reste 3 ou 4 jours sans manger. En 1936, éclate la guerre d'Espagne. Il s'engage dans les brigades internationales et est immédiatement envoyé sur le front, où il assiste à la mort d'un de ses amis, tué à côté de lui. Après la défaite des Républicains, il revient en France, où il se fait arrêter et interné au camp des Milles. En septembre 1939, c'est la guerre. Il s'engage dans l'armée française. Comme allemand, il est intégré à la Légion étrangère et envoyé en Algérie. L'armistice est signé. Il est renvoyé en France, où à nouveau, il est arrêté et conduit au camp de Ville-du-Sable. Il réussit à s'évader à nouveau et traverse à nouveau des moments très difficiles. Finalement, il réussit à s'engager à rejoindre la résistance. Au maquis, il participe à de nombreuses missions et organise les sabotages de voies ferrées et de bien. Il est nommé commandant de compagnie avec le grade de lieutenant. En 1944, il dirige les combats pour la libération de la Creuse. Le 6 juin 1944, il entre à Guéret, chef-lieu de la Creuse, à la tête de ses hommes. Mais il subit la contre-attaque des Allemands et des milices qui refusent de se rendre. Finalement, il sort victorieux du combat. Par la suite, Adolphe est intégré à l'armée régulière comme la majorité des résistants. C'était en août 1944. On l'envoie sur la côte atlantique, puis à nouveau en Algérie. Connaissant son désir d'obtenir la nationalité française, son chef, le colonel François, intervient auprès du général de Gaulle, qui signe en sa faveur un décret de naturalisation le 2 décembre 1945. En juillet 2005, il est décoré de la Légion d'honneur. Pendant plus d'un demi-siècle, Adolphe a résidé à Strasbourg, où avec son épouse Nicole, qui a soutenu et partagé avec lui toutes ses activités, il est resté le combattant intrépide de la liberté et des droits de l'homme qu'il a toujours été. Notre cher ami Adolphe emporte avec lui l'admiration de tous les hommes et des femmes de progrès qui l'ont côtoyé et qui garderont.